Cube Radio. Le commentaire de
Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Monsieur Trudeau aujourd'hui qui a reparlé de la question des voyages. Je sais, j'entendais des gens, ou je lisais des gens qui disaient, ah, tu sais, il nous a encore traîné ça, il prendra pas de décision. C'est pas ma perception, moi. J'ai l'impression que moi, je m'attends à quelque chose la semaine prochaine de concret, là.
Oui, non, pour une raison très simple, c'est que le gouvernement Trudeau est conscient que c'est pas le temps de rentrer dans un débat académique sur si vraiment c'est nécessaire d'en faire. On n'est pas là, là. C'est une bataille politique qu'il n'a pas le luxe de mener contre les provinces. Et donc, il faut répondre d'une manière ou d'une autre à l'inquiétude suscitée par les provinces à l'égard des voyageurs et à l'égard des semaines de relâche qui arrivent. Maintenant, le gros problème auquel le gouvernement Trudeau est confronté, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a pas de consensus à l'interne à savoir quelle est la meilleure façon de procéder. Juridiquement, bannir les voyages essentiels, ça pose un immense problème en termes de charte des droits et libertés. Et comme le gouvernement Trudeau ne veut pas invoquer la loi sur les mesures d'urgence dans le contexte actuel, c'est très compliqué de réussir à légiférer une interdiction de sortir du pays pour des Canadiens. Est-ce qu'on peut le faire? Alors, ça, c'est comme un méandre judiciaire dans lequel on ne veut pas se lancer. Il y a l'idée des quarantaines dans les hôtels, mais ça aussi, objectivement, qu'on s'arrête pour y penser, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça prend des chambres d'hôtel à proximité. Il faut coordonner le voyagement des gens vers ça. Il faut... Qui va assurer la surveillance de ces hôtels-là? Comment est-ce que le gouvernement, qui à partir du moment où il prend la charge des gens, a ce qu'on appelle en anglais un « duty of care », donc doit s'assurer qu'ils sont pris en charge, sécurisés, etc. Tout ça devient immensément compliqué. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de mettre ça en œuvre? Est-ce qu'on peut le faire avec les provinces? Est-ce qu'il y a une approche moins compliquée qui est celle de déployer des méthodes de surveillance, des quarantaines plus sévères et de dépistage à l'arrivée? Parce que ce dont on parle pas beaucoup, c'est que depuis de longs mois, il y a eu des protocoles et des projets de recherche qui ont été faits à Calgary, entre autres, puis à Pearson, où on a fait passer des tests de dépistage aux gens qui arrivaient de l'étranger à leur arrivée 3, 5 et 7 jours plus tard. Alors, est-ce que c'est la méthode à mettre en place? Mais quel personnel de la santé va les faire, ces dépistages-là, tu vois? Alors, on est vraiment là, pris dans une question d'essayer de résoudre les enjeux logistiques autour de la mise en œuvre de ça. Moi, on me dit que ce sera discuté à la réunion du cabinet lundi avec l'ensemble du cabinet Trudeau et que donc, on peut s'attendre à une annonce la semaine prochaine.
Mm-hmm. Mais oui, moi aussi, je m'attends à ce que... Je n'ai pas l'impression qu'on veut juste gagner du temps. Là. J'ai l'impression qu'on attend que tout soit ficelé et qu'on aura... Mais on s'entend... Prenons là cette mesure-là. Si on décide qu'on y va avec la méthode néo-zélandaise, donc tout le monde à l'hôtel... Là, Emmanuel, les personnes qui vont, il y avait les gens qui vont voyager, ça va être vraiment des voyages vraiment essentiels. Là. Personne va aller dans un tout inclus. Je sais pas, moi, le tout inclus à 1199$ pour la semaine, puis que tu vas en payer un autre 2000 quand tu vas revenir pour un hôtel à Montréal, à Dorval, là, à côté de l'aéroport, c'est pas vrai là.
Non, c'est ça. C'est certain. D'ailleurs, depuis qu'on a annoncé l'obligation de dépistage avant de rentrer au Canada, on a vu une baisse importante du nombre de vols, du nombre de voyages. Et donc, on sent là, que déjà ce que le gouvernement Trudeau a annoncé depuis le début de l'année a un impact sur les voyages. L'appel cette semaine du gouvernement Trudeau aux gens d'annuler et de ne pas faire de voyage a réduit davantage les réservations d'après les transporteurs aériens. Donc, ça a déjà un impact. Ce qui prend un peu le gouvernement Trudeau par surprise dans tout ça, c'est que la réalité demeure que le Canada est quand même un des pays où les règles sont les plus strictes quand tu rentres au pays de l'étranger, à cause de l'obligation de dépistage à l'étranger et à cause de la quarantaine. Et la réalité, c'est que la quarantaine, le gouvernement n'allait jamais pouvoir être le seul à la faire respecter chez les gens. Parce que il n'y a pas de police fédérale au Québec, là. Alors, ça allait toujours exiger une coordination accrue avec les provinces, mais les provinces ont d'autres choses à faire à leurs policiers. Alors, c'est là que la quarantaine est tombée entre les cracks et que là, on se rend compte qu'il faut la resserrer pour essentiellement des enjeux d'opinion publique, je te dirais.
Parlons de vaccins. M. Trudeau, qui a parlé au PDG là, de M. Bourla, le Dr. Bourla, de Pfizer. Est-ce qu'il y a du nouveau? Ben, l'impression que ça m'a donné, c'est que tu parles à un employé dans une compagnie, puis là, finalement, au téléphone, puis là, t'as pas ce que tu veux, tu demandes de parler à son boss, puis le boss, il te dit, ben est-ce que mon... ce qu'on vous a offert comme règlement, ça va être ça, puis c'est tout. Salut.
Ben, c'est parce que ce qui est assez surprenant... C'est qu'on est le 21 janvier et M. Trudeau parle au PDG de Pfizer. Ça ne te surprend pas, toi?
C'est vrai que c'est un peu tard, hein?
Ben, je sais pas, là, mais tu sais, c'est supposé...
Ça veut dire que ça n'a jamais été négocié au plus haut.
Ouais. Donc, ça n'a jamais été négocié plus haut que la ministre? C'est quand même... Tu sais, c'est... Moi, je me garde de condamner la stratégie de vaccination du Canada avant qu'on soit plus avancé et qu'on ait des meilleurs comparatifs avec les autres pays du monde, mais c'est quand même surprenant. Et je pense que ça illustre par ailleurs une des lacunes de ce gouvernement-là dont on parle très peu, c'est que c'est un gouvernement qui n'est pas ancré et qui n'est pas connecté sur le monde des affaires. T'es-tu capable de me nommer, tu sais, à part François-Philippe Champagne, qui d'autre est un ministre senior qui vient du monde des affaires?
Non, c'est un manque flagrant. L'expérience économique, le vécu économique, c'est un manque flagrant, c'est sûr.
Et je veux dire, la ministre des Finances, c'est une journaliste. La ministre responsable de négocier, c'est une avocate éminemment respectée en droit commercial, mais objectivement parlant, c'est une prof d'université, là. Alors, est-ce que ça a joué en bout de ligne, ça? Ce manque de connexion et ce manque de... d'intuition sur comment fonctionne ce monde-là, est-ce que c'est un élément qui a joué dans la difficulté du Canada de s'imposer dans cette course au vaccin pour les livraisons, pour les premières livraisons à cause de notre petit poids démographique? Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que si ça avait donné quelque chose, ce résultat-là, on l'aurait su. Cet appel-là de M. Trudeau, on l'aurait su.
Parce que l'appel, voilà. Mais t'es d'accord avec moi que l'appel, c'est chou blanc, là. Il n'y a rien eu. En fait, il, ce qu'il dit, lui, être le gain dans l'appel, c'est que Bourla lui a confirmé que là, pour l'instant, là, tu sais, on n'aura pas plus de doses, mais on va en avoir plus en mars. Mais Emmanuel, je vais te poser une question. Moi. Je vais te dire comment je me sens dans l'affaire des vaccins. Mettons que moi, là, je te dois 1 000 $. OK? Tu m'as prêté 1 000 $. Puis là, je devais t'en remettre un premier 100 au mois de novembre. Je te l'ai pas remis, mais je dis, hey, je vais t'en remettre 200 au mois de décembre. N'inquiète pas. Arrive le mois de décembre, je te remets pas le 200. Je te remets pas le 200. Non, même pas. Mais là, je te dis, non, mais inquiète pas, là, au mois de janvier, je vais t'en donner 300. Tu sais, à un moment donné, tu vas devenir inquiète. Tu vas dire, ouais, il me semble que le montant qui me doit être de plus en plus gros, mais il me reporte.
Oui, mais parce que c'est pas comme ça que le gouvernement l'a négocié, l'histoire des vaccins. Le gouvernement, pour prendre ton analogie du 1 000 $, le gouvernement a négocié que je te remettrai 1 000 $ au 31 mars. Puis là, nous, on arrive en décembre, on dit, oui, mais je veux 50 $. OK, je vais t'en donner 20 au mois de décembre. Oui, mais là, finalement, je veux 100 $ ce mois-ci. Puis je veux 200, puis je veux 500 par semaine après. Comprends-tu?
C'est que dans la... Bon, les délais sont pas dans le contrat, là.
Toute la stratégie... Les délais sont par trimestre dans le contrat. Alors, c'est ça qui est arrivé a priori. Et donc, je pense que dans la planification générale de Pfizer, ben leur obligation contractuelle, c'est 4 millions de doses d'ici le 31 mars. Et ça, ils vont la respecter. Mais on n'est absolument pas éclairé sur c'était quoi l'échéancier entre-temps. Et c'est sur cet élément-là, je pense, que le gouvernement Trudeau s'est fait doubler par d'autres pays qui, eux, ont été prêts à payer des primes monumentales. On parle beaucoup d'Israël parce que c'est le seul à l'avoir admis publiquement pour avoir des doses plus tôt. Alors qu'au Canada, ce que la ministre a dit, c'est qu'on a payé un prix raisonnable. T'sais. Mais c'est quoi raisonnable quand tu es rendu dans une course au vaccin pour sauver des vies?
Mais c'est parce que nous, on a respecté l'accord où les pays font pas de surenchère. Fait qu'au Canada, on est gentil, mais on n'est pas vacciné. Hey, Emmanuel, bonne fête de semaine!
Bonne fête de semaine! Salut. Bye!